Toute la vie chrétienne gravite autour de la croix. Il n'y a pas de véritable christianisme sans la croix. Quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, Dieu nous demande pas lequel des deux versions du christianisme on veut. Hein? Si on veut un Christ avec une croix ou si on préfère un Christ sans croix, non, Dieu donne pas le choix à personne. La croix est pas une option, c'est au contraire la partie la plus importante du vrai christianisme. Sans l'acceptation de la croix dans nos vies, on va se réveiller avec un christianisme efféminé, affaibli, dépourvu de grâce, de joie et surtout de puissance. C'est Madame Guillon qui a écrit « Si votre amour pour le Seigneur est pur, vous l'aimerez tout autant avec lui sur le calvaire que sur le mont Tabor. » Fin de citation. L'apôtre Paul a parlé quelque part d'une apostasie en Thessaloniciens. Une apostasie qui allait venir, mais trompons-nous pas. À mon avis, l'apostasie, là, c'est pas le rejet de la foi, mais le rejet de la croix. C'est en 2 Timothée 3:5 où il parle de ceux qui auront encore l'apparence de la piété, mais qui en renieront ce qui en fait la force. Paul voulait dire que les gens allaient continuer à rester attachés à la religion, mais qu'ils continueraient aussi à rester attachés à leurs vieux péchés. Le vrai chrétien, c'est celui qui s'efforce de mettre ses péchés sur la croix. Sinon, il s'agit d'un croyant apostat aux yeux de Dieu. Que Dieu puisse nous aider à élever fidèlement nos péchés sur la croix, pour qu'ils y périssent pour toujours. Madame Guillon a encore écrit, « Celui qui n'aime pas la croix aime peu les choses de Dieu. Celui qui aime la croix découvre que même les choses les plus amères de la vie deviennent douces. Jusqu'à quel point avez-vous soif du Seigneur? Vous aurez soif de Dieu et le trouverez dans la même mesure où vous aurez faim de la croix. Voici un authentique principe spirituel que le Seigneur ne trahira jamais. Dieu nous donne la croix et la croix nous donne Dieu. » Fin de citation. La croix était au centre de l'ancien christianisme. Elle occupait pas seulement un petit coin dans l'enseignement du Christ ou des apôtres, mais au contraire, une place de premier plan. Certains chrétiens ne permettent pas à Jésus-Christ d'empiéter sur leur vie privée. Ils veulent pas que Jésus-Christ touche à leur orgueil, à leur convoitise, à leurs pensées secrètes, à leurs désirs personnels, à leurs ambitions, à leur petit bien-être, à leur qualité de vie, à leur portefeuille, etc. Mais mes pauvres amis, ceci n'est pas le christianisme apostolique. Ce christianisme en papier, là, a été inventé après la mort des apôtres, principalement à l'époque de la grande apostasie des années 300, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église un peu, là, quand le christianisme est devenu la religion de l'État, puis que les païens ont littéralement inondé l'Église de leur tiédeur, puis de leurs mœurs relâchées. C'est là que la doctrine de la croix a pris le bord. Bon. Paul a encore dit quelque part, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre, c'est synonyme de l'égoïsme charnel. Il s'agissait probablement ici de gens qui professaient suivre le Christ de leur bouche, mais qui adhéraient au christianisme d'une façon tout à fait superficielle. Ils vivaient encore selon leur convoitise, puis ils suivaient les désirs de leur péché au lieu de porter leur croix, puis de les faire mourir, comme Jésus l'a ordonné à tous ses disciples. Accepter la croix, c'est accepter l'autorité de Dieu sur nous. Dieu mesure notre amour pour lui à la manière dont on porte notre croix quotidiennement. L'élément de sacrifice dans nos vies établit la mesure de notre amour pour Dieu. Peu importe les bonnes actions apparentes qu'on peut faire envers quelqu'un, s'il n'y a pas un élément de sacrifice à l'intérieur de notre service, ben, posons-nous des questions sur la valeur de notre bonne action, entre guillemets. Il y a toujours un élément de sacrifice dans l'amour. L'amour, c'est la souffrance. Le refus de porter sa croix est la principale maladie de l'Église moderne. C'est pour ça qu'il y a tant de gens et d'églises qui se sont refroidis spirituellement, puis qui ont des vies chrétiennes et des cultes d'église super plates, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la franche vérité. Un jour, je marchais avec un de mes amis, puis pendant qu'on parlait des choses de Dieu, il m'est venu une drôle d'image dans l'esprit. J'étais comme à l'intérieur d'un hangar, d'un vieux hangar sombre, puis sale, puis il y avait toutes sortes de vieilles affaires brisées qui traînaient partout dans tous les coins. Puis dans un coin, au fond du hangar, je voyais une grande croix en bois qui avait été revêtue d'une vieille couverture poussiéreuse, là, comme si elle avait été là depuis très, très, très longtemps. Là, ça m'a surpris, là. J'ai compris ce que le Seigneur essayait de me montrer. Le problème de notre christianisme sans puissance et sans joie est dû au fait qu'on s'est débarrassé de nos croix, puis qu'on est allé mettre ça avec les autres vieilles affaires qu'on veut plus. Même le meilleur chrétien du monde dépose souvent sa croix. Porter sa croix, c'est pas une expérience amusante. Dieu comprend ça. Rappelons-nous que même le Christ a éprouvé lui-même de l'aversion pour la sienne dans le jardin. C'est pas un péché d'éprouver des combats intérieurs à propos de la volonté de Dieu, pourvu qu'on en vienne finalement par la faire un jour. Dieu va toujours nous donner le temps qu'on a besoin pour ça, soyons-en persuadés. L'apprentissage de la sainteté n'est pas quelque chose d'agréable pour la chair. En fait, la sainteté est une mort avant d'être une vie. La vie chrétienne tout entière est une longue et lente crucifixion, puis une longue et lente mort. On choisit souvent la facilité, hein? On coupe la queue du choix un pouce à la fois, comme dit le proverbe, mais en agissant comme ça, on rend seulement notre agonie encore plus longue, puis on fait rien que retarder notre croissance spirituelle, c'est tout. Seuls les croyants spirituellement crucifiés pourront apporter le message d'un Christ crucifié au monde de façon efficace. On aura beau prêcher la sanctification tant qu'on voudra, mais ce que l'Église a surtout besoin, c'est de voir des gens qui ont laissé la croix faire son œuvre dans leur vie, voir des gens crucifiés et morts à eux-mêmes. En voyant les fruits de leur crucifixion, les autres croyants vont se mettre à aimer la croix au lieu de la craindre. Ils vont se mettre même à la désirer. Si on a de la difficulté à faire ça, alors mon ou pas, encore une fois, même Jésus a dû prier pour accepter sa croix avant de pouvoir aller s'étendre dessus en toute soumission. Prions nous autres aussi devant la croix. Si on enlève sa croix au christianisme, il reste juste une coquille vide. C'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas la faute à personne, c'est juste que ces choses-là sont mal comprises, ou pire, sont pas enseignées du tout. Alors rappelons-nous aussi souvent que possible qu'en acceptant Jésus-Christ, on a accepté la croix sur laquelle il a été cloué également. On peut juste pas prendre ce qui fait notre affaire, puis balancer le reste. On peut pas prendre le Christ sans prendre sa croix avec. Demandons à Dieu de nous aider à consacrer nos vies à une pratique plus fidèle du port de la croix dans nos vies quotidiennes. On peut avoir accepté que Dieu entre dans notre vie à cause de toutes sortes de raisons, mais que ce soit pour la raison que ça voudra, Dieu nous demande tous de porter notre croix. Il va falloir que ça en vienne là. Est-ce qu'il y a eu un moment dans notre vie où on a été plus proche du Seigneur qu'on l'est maintenant? Est-ce qu'on a perdu la grâce intérieure qu'on avait autrefois? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Une lente rétrogradation est presque toujours le signe qu'on a rejeté les différentes croix que Dieu a mis sur notre route. On a été confronté à des situations quelconques où on devait faire un choix, par exemple, qui exigeait un sacrifice de notre part, puis on a choisi le chemin facile. On n'a pas fait le bon choix, on a écouté la voix de notre chair, on a choisi de subir une perte spirituelle plutôt que d'accepter le sacrifice auquel Dieu nous appelait. C'est peut-être pour ça qu'on est rendu où on en est maintenant. Au lieu d'accepter le sacrifice puis de marcher dans la volonté de Dieu, on a préféré sauver notre vie, puis on a perdu celle de la grâce. L'amour dominant du moi, c'est la mort de la spiritualité. On doit penser à protéger notre vie spirituelle avant toute chose. Le croyant doit vivre sa vie en fonction du royaume de Dieu, puis chercher les intérêts de Dieu, puis mettre sa parole en pratique avant la réalisation de toutes nos volontés. Apprenons tout de suite que pour garder notre premier amour, il faut garder notre croix aussi. On éprouve souvent un sentiment très net d'insatisfaction dans notre vie spirituelle. Plusieurs en sont là, puis moi aussi d'ailleurs. On est relâché dans notre foi, puis on se plaint facilement de notre pauvreté spirituelle, mais quand le Seigneur envoie quelqu'un mettre le doigt sur la cause réelle de notre problème, qui est souvent un manque d'obéissance à la parole de Dieu quelque part, là on se met à se débattre comme des poissons qui viennent d'être ferrés, là on change d'idée, puis on se met à justifier le relâchement dont on se plaignait 5 minutes avant. Osée 7,14 dit « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. » Alors, soyons pas comme ça. Ce qui rend la vie chrétienne misérable, souvent, c'est qu'on cherche à conserver notre vie propre, notre égoïsme, nos anciens péchés, sous un rapport, sous un autre. Pourquoi on fait ça? Eh bien, parce que tout être humain, sans exception, possède de l'aversion face au renoncement de sa volonté charnelle et rebelle. Soyons honnêtes, plusieurs d'entre nous autres, on aimerait pouvoir offrir à Dieu une religion sans sacrifice, selon qui est aussi dit d'Israël en Osée 5,11, il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Mais Dieu ne peut pas se réjouir de ce genre de religion-là, ni le croyant en tirer de la joie d'ailleurs. Le chrétien qui ignore la croix va pratiquement vivre en pure perte. Si on ne veut pas renoncer à nos péchés, puis à aucune partie de notre vie, Mais on peut simplement pas être pleinement un chrétien dans le vrai sens du mot. Je dis pas qu'on peut pas être sauvé, mais simplement qu'on pourra pas être la vraie lumière qu'on pourrait être dans notre vie pour le Seigneur. On pourra pas non plus expérimenter les nombreuses bénédictions qui sont supposées nous donner, qui est supposé nous donner le christianisme évangélique véritable. C'est plus nos intérêts qui doivent dominer nos vies, mais premièrement ceux du Christ et de son royaume. Le christianisme est une vie de sacrifice et de bénédiction à la fois. C'est Matthew Henry qui a écrit « Les saintes afflictions sont des promotions spirituelles ». Pour ceux qui l'ont jamais fait, je vous invite à lire l'histoire du roi David à partir du chapitre 16 du premier livre de Samuel dans la Bible. Le roi David a été un des plus beaux caractères bibliques. Mais le petit David berger ne serait jamais devenu David le grand roi si ça n'aurait pas été Saül qu'il persécutait dans le fond. Avez-vous déjà pensé à ça? Saül a été l'épine dans le pied de David pendant je ne sais pas combien d'années, mais ce sont les mauvaises situations que Saül provoquait dans sa vie qui l'ont justement formé. Ce sont les injustices de Saül qui ont poussé David à s'enraciner en Dieu puis à fortifier sa foi en lui. Sans le savoir, puis surtout sans le vouloir, Saül a été le tremplin qui a propulsé David vers Dieu puis qui a fait de lui un des plus grands rois d'Israël. C'est la même chose pour nous autres. Si on n'avait jamais de difficultés, si jamais personne nous blessait, nous vexait, nous ferait pleurer, comment vous pensez qu'on pourrait développer Jésus-Christ en nous? Hein, on n'aurait pratiquement aucun moyen de le faire. C'est un fait, mes amis. La théologie peut pas nous donner ça. Hein? La connaissance peut pas nous changer en Jésus-Christ. C'est la croix, c'est tout. Des afflictions. Dwight Pentecost a écrit « Dieu est peu glorifié ou honoré par celui qui souffre peu ». On peut remercier Dieu pour l'adversité sous toutes ses formes parce que ça produit quelque chose de positif. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jacques enseigne en disant « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit ». Jésus a dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera ». Sauver sa vie, ça veut dire chercher à préserver le bien-être de la chair, puis accomplir ses volontés. Sauver sa vie, ça veut dire qu'on cède aux différentes pressions qui agissent sur nous autres, puis qu'on choisit d'obéir à nos mauvais penchants à la place. À l'opposé, perdre sa vie comme Dieu nous le demande, ça veut dire qu'on renonce à obéir aux impulsions naturelles de notre chair quand on est provoqué, puis qu'on laisse plutôt l'Esprit de Jésus en nous inspirer une conduite conforme à la sainteté. On est tous enclins à ignorer les directions de Dieu quand elles s'opposent à nos goûts ou nos intérêts personnels, puis c'est ça qui nous tue, qui tue l'Église. Par exemple, quand un pasteur, je donne un exemple quelconque, là, quand un pasteur a besoin d'un ancien pour œuvrer avec lui, bon, sa nature humaine va le porter à choisir celui qui est d'une nature soumise, puis qui n'a jamais eu l'habitude de contester son leadership. Selon la chair, il va être porté à ignorer aussi la candidature de celui qui est plus libre d'exprimer des points de vue différents des siens, même s'il a de plus grand don que l'autre, il va être ignoré. On sait bien que les points de vue différents sont les éléments même de la sagesse. Proverbe 11:14 dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers, mais comme la chair aime pas être contredite, c'est évidemment pas le chemin qu'elle va prendre. Maintenant, si notre pasteur fictif là, est un homme spirituel, il va faire immédiatement choix de la personne la plus douée spirituellement, même si son caractère manque de compatibilité avec le sien. Il va choisir d'aligner sa volonté à la volonté de Dieu, même si sa chair proteste. Ah, si on avait toujours la douceur de nous courber à l'autorité de la croix dans nos vies, quelle spiritualité on pourrait développer, hein? Mais on cherche la plupart du temps à nous débarrasser de notre croix au lieu de la porter, c'est un fait. Quand Ananias le prophète, là, en Jérémie, a brisé le joug de bois de dessus le cou de Jérémie, en Jérémie 28, Dieu lui a fait dire qu'il aurait un joug de fer à la place. C'est ce qui arrive des fois dans nos vies. On cherche à se libérer d'une situation désagréable, mais en voulant améliorer notre situation, on réalise plus tard qu'on a fait juste changer le mal de place puis que notre nouvelle croix est encore plus pénible que la première. La croix est tout aussi lourde, vous savez, sur l'épaule gauche qu'elle est sur notre droite. Hein? Henri Ami a écrit « Celui qui refuse sa croix ne la rend que plus lourde ». Fin de citation. Alors, on est mieux des fois de mettre un peu d'eau dans notre vin, de prendre notre mal en patience, puis accepter le sort que Dieu nous a donné dans la vie. La plupart du temps, quand on vit des situations plus ou moins désagréables ou mortifiantes pour la chair, selon notre habitude naturelle, on va chercher à les fuir. On s'en va vite trouver Dieu pour lui demander de régler nos problèmes au plus vite. On cherche des solutions puis des portes de sortie puis tout ça, c'est bien humain, comprenez-moi bien. Mais des fois, il n'y en a pas de porte de sortie. Puis, s'il n'y en a pas pour le moment, c'est probablement parce que Dieu veut qu'on popote un peu dans notre jus, comme on dit. Alors, ayons aucune crainte. Quand les choses deviennent vraiment dangereuses pour notre foi, Dieu va nous faire lui-même sortir de l'impasse. La chose la plus précieuse du croyant, c'est sa foi. Pour Dieu, en tout cas. Puis, tant qu'on vit... Si ce qu'on vit n'est pas dangereux pour notre foi, eh bien, c'est pas dangereux du tout, dans le fond. C'est comme ça, du moins, que Dieu voit les choses. Matthieu 14, 22 dit... Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Bon, Jésus leur a demandé ça, même s'il savait qu'il allait avoir une tempête, puis que ce serait extrêmement difficile de ramer dans ces conditions-là. Mais Jésus leur a pas donné d'option. Il est bien évident que si les disciples avaient vraiment pas voulu obéir, s'ils avaient choisi de faire le tour du lac à pied à la place, ben, le Seigneur les aurait peut-être laissé faire. Les disciples auraient pu décider d'attendre le lendemain aussi pour que la température soit meilleure avant de traverser, mais dans ce cas-là, ils auraient perdu énormément de temps aussi. Le Christ aurait eu le temps d'aller à Génézareth puis d'en revenir une dizaine de fois parce que lui, il l'a traversé à pied, le lac, hein, en ligne droite. Jésus aurait poursuivi son ministère ailleurs puis les disciples auraient eu pas mal de difficultés à le rattraper, si vous voulez mon avis. Sans parler qu'ils auraient manqué de voir beaucoup de grands miracles puis d'entendre beaucoup de grandes paroles. Là où je veux en venir, c'est que quand Dieu nous présente une croix, c'est pour nous édifier et pour nous amener plus loin en lui. Celui qui méprise la croix méprise la grâce qu'il aurait pu recevoir avec et méprise sa propre édification dans le fond. Toute croix dans la vie du croyant égale un progrès spirituel, c'est une équation. C'est normal d'essayer de se déprendre quand on est mal pris, mais on sera pas sage. On sera sage plutôt d'avoir l'intelligence de prier pour essayer de comprendre ce que Dieu tente de nous enseigner à travers ce qu'on vit avant d'essayer d'en sortir. Des fois, on accepte de porter la croix volontairement. D'autres fois, on la subit parce que Dieu a choisi de nous l'imposer, un peu comme notre ami Simon de Cyrène. En Matthieu 27, 32, on dit de lui que les soldats le forcèrent à porter la croix de Jésus. Dieu sait qu'il nous arrive souvent de fuir la croix, ben c'est pour ça qu'il prend l'initiative des fois d'organiser des circonstances qu'on peut pas échapper, hein, puis qui va concourir à la mortification de notre chair. Mieux vaut apprendre à aimer notre croix si on veut qu'elle accomplisse un travail efficace, par exemple. Apprenons à la porter volontairement parce que de toute façon, Dieu ne nous laissera pas y échapper tout le temps, vous savez. Si on choisit toujours de fuir notre croix, on va perdre des bénédictions, puis on va perdre beaucoup de temps sur le chemin de notre sanctification personnelle. Si on porte pas notre croix, on va rapidement devenir des figuiers stériles. Alors que Dieu nous aide à adopter une attitude d'humilité, il faut qu'on apprenne à obéir à la croix. Et là, quand je dis ça, je veux pas dire que moi, j'ai pas de problème à faire ça, là. J'ai autant de problèmes que vous autres, puis si vous saviez toutes les difficultés que je peux avoir dans ma vie chrétienne, ben, peut-être que ça vous ferait dresser les cheveux sur la tête un petit peu. Alors, je prends pas une air supérieur en vous disant en vous encourageant à porter votre croix, parce qu'en même temps, je m'exhorte moi-même à le faire, vous savez. Puis Dieu sait. Alexander McLaren a écrit « Tout au long de notre marche chrétienne, nous devrons élever des autels à Dieu, sur lesquels nous devrons nous sacrifier nous-mêmes, ou nous n'avancerons jamais d'un pas. » Fin de citation. On doit apprendre à être soumis à notre croix sans murmurer. Murmurer, ça veut dire chialer puis se rebeller intérieurement. C'est accomplir nos devoirs chrétiens, mais à reculons. C'est ça, murmurer. C'est pas l'attitude que Jésus veut qu'on ait. On doit pas traîner notre croix, mais la porter dans un esprit volontaire, comme Jésus a fini par le faire lui aussi. Il y a une mise en garde ici que je voudrais faire à propos de ça, là, de porter sa croix. Porter sa croix, ça veut pas dire qu'on doit accepter passivement et bêtement tout ce qui nous arrive. Il y a des quantités de choses qui sont permises par Dieu dans notre vie justement parce qu'il veut qu'on les oppose puis qu'on les repousse. La vie nous lance des fois des défis pour nous faire grandir comme ça. En nous opposant à certaines épreuves, ça aura pour effet de faire grandir notre persévérance, notre patience, notre foi ou des tas d'autres bonnes choses comme ça. On doit accepter comme croix seulement les circonstances qu'on ne peut pas changer. C'est comme faire une crevaison sur la route en hiver quand il fait 28 degrés sous zéro. Ça m'est arrivé souvent. Dieu veut pas que tu acceptes ta crevaison, hein, que tu restes assis dans ton auto jusqu'à temps que tu meurs de faim ou de froid. Non, ça, tu peux faire quelque chose. Tu peux sortir puis changer la roue. Ce que tu peux pas changer, par contre, c'est la température. Ça, tu dois l'accepter. Comprenez-vous la différence? Il y a une foule de situations dans nos vies qu'il nous faut discerner et y reconnaître la croix ou non. Depuis le premier moment où on a eu la foi au Christ, Dieu poursuit un seul but, celui de nous rendre semblables à l'image de son Fils, en caractère, du moins. Tout ce qu'on possède, maison, auto, compte en banque, puis tout le reste appartient à Dieu. Dieu a tous les droits dans toutes les vies. Nos choses ont peut-être beaucoup de valeur pour nous autres, mais c'est des choses qui ont une valeur très relative pour Dieu. Dieu ne met pas de prix sur les choses. Il en met seulement sur les cœurs des hommes. Toutes nos choses matérielles précieuses sont rien que des accessoires dans les mains de Dieu pour notre éducation spirituelle, dans le fond, hein, dans le but de nous rendre plus sages et plus sains. Par exemple, moi, si mon fils il casse une vitre de la maison par négligence, là, je suis devant un choix. Je me mets en colère à cause de la vitre ou j'envisage la situation comme une tentative de Dieu de m'enseigner à être un bon père puis d'aller dans une bonne attitude corriger et enseigner mon fils, lui enseigner le sens des responsabilités, comprenez-vous? Un autre exemple, si Dieu permet que je reçoive une facture plus ou moins grosse, puis plus ou moins inattendue, ben peut-être que Dieu veut faire grandir ma foi en lui. Alors, si Dieu veut permettre des choses comme ça d'arriver dans ma vie, il a parfaitement le droit de le faire. Ryan a écrit, « En murmurant, nous agissons comme si nous avions des droits. Hein? L'humiliation doit devenir l'épouse de nos âmes. » Fin de citation. Je répète que les vanités terrestres, les biens matériels, si vous préférez, ne sont que des instruments entre les mains de Dieu, puis on doit apprendre à accepter l'utilisation que Dieu en fait dans nos vies. Maintenant, on va parler de l'irritation. En Ecclésias 1,14, il est écrit « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. » La traduction King James a rendu la poursuite du vent par « vexation de l'esprit ». J'aime ça. La vexation se réfère aux ennuis, aux chagrins, à la contrariété, puis à la frustration qu'engendrent certaines situations de la vie. On en a un exemple de vexation en 1 Roi 21,4 qui dit « Achab resta dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jézréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Vous vous souvenez un peu de l'histoire? Achab voulait avoir la vigne de cet homme-là, puis cet homme-là dit « Il n'y en a pas question. » Proverbe 13,12 dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Hein? Le pauvre Achab avait le cœur malade, là. Malade d'irritation. C'est exactement ce que ressentait Achab. Toute frustration est charnelle parce qu'elle est un sous-produit de l'égoïsme. La frustration n'est jamais un fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais frustré. Quand on éprouve la frustration, on peut être certain que ce sentiment-là n'émane pas du Saint-Esprit, mais de la chair. Peu importe ce que c'est. La frustration révèle une activité charnelle quelconque, là, quelque part. La frustration révèle également que la croix est en train de faire une œuvre en nous, ou plutôt qu'elle est en train d'essayer d'en faire une, mais qu'on y résiste un peu. La frustration nous signale que Dieu essaie de nous faire renoncer à quelque chose, puis que la chair se débat pour échapper à sa propre mort, c'est ça que ça veut dire. La chair éprouve toujours de la frustration quand elle ne peut pas avoir sa propre volonté. Quand Dieu permet des circonstances qui provoquent en nous autres de la tristesse ou de l'irritation, ou de la frustration, si vous préférez, on sait alors que la croix est en train de vouloir nous sanctifier et de nous enseigner une importante leçon. Pour l'amour de Dieu, soyons pas rebelles, mais coopérons avec la croix. Toute irritation et toute colère doit être mise sur la croix. Tout ce qui est mortifiant pour la chair peut être envisagé comme un sacrifice spirituel et être offert en tant que tel à Dieu. Celui qui se courbe devient plus fort que celui qui raidit le coup. L'humble multiplie sa joie. Et le rebelle sa douleur. Le rebelle consume son âme par son irritation, mais l'humble, par sa soumission, peut sourire avec sérénité. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Bon, tout être humain va éprouver une certaine frustration face à une injustice. C'était très humain de faire ça, tout le monde est comme ça. Et pour celui qui a donné sa vie à Dieu, par contre, c'est le moment de mourir à lui-même. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'idée de jeter un coup d'œil sur la police d'assurance que j'avais prise quand j'étais plus jeune. L'assurance vie. Il y avait des choses qui me paraissaient pas claires, alors je suis allé la faire vérifier par un autre courtier. Mais devinez ce que j'ai découvert, que la police valait pas le quart de ce que mon ancien courtier m'avait dit. Il m'avait dit qu'elle avait une valeur de rachat, puis il en avait à peu près pas. Il m'avait dit que j'étais assuré pour 100 000, puis je l'étais seulement pour 25. Il m'avait dit que j'aurais fini de payer dans 10 ans, alors que la police, le genre de police que c'était, tu payes toute ta vie, puis les primes triplent à tous les 10 ans, puis j'en pense d'autres mensonges qui m'ont été racontés. L'assurance, c'est pas mon domaine tellement, fait que j'étais pas difficile à tromper à cette époque-là. Pour faire une histoire courte, là, il a fallu que j'abandonne cette police-là, puis j'ai perdu 3 500 $ à cause de ce courtier menteur-là. Je vous dis qu'il m'en est passé des idées par la tête. Je voulais tuer ce type-là. Je voulais vraiment le traîner en cours, mais les paroles du Seigneur me revenaient tout le temps. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Bon, j'aurais jamais cru devoir mettre ce verset-là en pratique d'une façon aussi littérale dans ma vie. Ça m'a fait du mal intérieurement, puis ça m'en fait encore un peu aujourd'hui quand j'y pense, mais je suis vraiment content de voir que par la grâce de Dieu, je peux comprendre la douceur qui animait notre maître. Puis je suis content de pas avoir cédé à ça, mais au contraire d'avoir accepté la croix de l'injustice. Parce que ça m'a vraiment béni de cette expérience-là. On est frustré souvent parce qu'on a l'impression qu'on a foulé au pied notre bon droit. Hein? Mais pour Dieu, le bon droit est toujours pas une raison suffisante pour nous livrer au sentiment de frustration, d'irritation, de colère ou de vengeance. La frustration est une réaction de la chair qui lutte pour sauver sa vie propre, pour regagner ce qu'elle a perdu. Dieu va arranger de nombreuses croix tout au long de notre existence comme ça. Il va permettre lui-même quelquefois que nos droits les plus légitimes soient brimés afin de mettre notre chair à mort puis de nous apprendre la douceur et la soumission. Toute irritation est insensée. L'irritation n'est jamais nécessaire. Elle est toujours inutile. L'irritation est très souvent justifiable d'un point de vue humain, mais elle n'est jamais dans le royaume de Dieu. Au lieu de se venger lui-même, l'homme spirituel va plutôt choisir de se tourner vers Dieu dans la prière, prendre une attitude soumise et s'en remettre à celui qui jugera un jour, justement, les actions injustes des hommes. Des fois, notre révolte contre les injustices qui nous arrivent font simplement ressortir la rébellion qu'il y a en nous autres. Dieu peut très bien permettre lui-même qu'on soit traité injustement pour nous amener à voir la rébellion qu'il y a encore en nous. Dieu nous appelle de cette façon-là à mettre notre rébellion sur la croix puis à revêtir l'attitude de l'agneau qui monte volontairement sur l'autel, qui se laisse égorger, qui se laisse tondre. Jésus nous a donné cet exemple-là puis on est appelé à le suivre. Les injustices contribuent à révéler et à extirper la rébellion charnelle de nos cœurs. À travers ces frustrations, Dieu enseigne l'homme. Les circonstances frustrantes sont très souvent les porte-paroles même de Dieu. Dieu veut mettre de la douceur dans notre caractère, puis il peut y arriver. Il peut arriver à ça seulement en permettant des injustices dans notre vie. Avez-vous déjà pensé à ça? Alors, à chaque fois qu'on va accepter, dans une bonne attitude, la main de Dieu derrière les injustices, on va réaliser qu'on a fait un grand pas dans le chemin qui nous amène à la ressemblance de Jésus-Christ. Comme l'expérience que je vous ai racontée tantôt, j'ai perdu de l'argent, je peux pas vous dire la bénédiction intérieure que j'ai ressentie quand j'ai finalement réussi à mettre en pratique ce verset-là. Quiconque prend ton manteau, le suit ta tunique, je veux dire. Et rien qu'à y penser, j'avais la chair de poule quand je lisais ce verset-là. J'ai dit, s'il fallait que ça m'arrive une chose pareille, j'aurais vraiment de la peine. Alors, je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir réussi à le mettre en pratique au moins une fois. Ça m'a vraiment béni intérieurement. J'ai vu, bon, ben j'ai accompli ça. C'est une des choses les plus dures que le Seigneur nous demande, que l'Évangile nous demande. Puis j'étais vraiment content d'avoir réussi ça. Alors, il y a une bénédiction derrière la difficulté aussi. La chair plaide sans cesse la légitimité de ses désirs ou de ses actions égoïstes. Quelque chose de légitime, c'est comme un droit qui est supposé être reconnu, là. Mais l'Évangile nous enseigne que le chrétien doit renoncer même à sa légitimité. En Luc 14, 33, Jésus a dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Le chrétien doit donc renoncer à la légitimité de son bien-être, de son bonheur terrestre, de ses plans, et même à la légitimité de sa propre vie, si telle est la volonté de Dieu pour lui. C'est Augustin qui disait « Souvenez-vous que vous ne vous appartenez plus à vous-même ». Alors attention aux choses qu'on croit légitimes. Hein? L'égoïste de la chair se nourrit littéralement de tout ce qu'elle croit lui être légitime. C'est précisément aux choses dites légitimes que la chair se cramponne le plus. Son repos légitime, sa paix légitime après une bonne dure journée de travail, son bonheur légitime, supposément, ses faiblesses légitimes, ses droits, etc., etc. La légitimité est le refuge favori de la chair. La chair peut, à la rigueur, accepter de renoncer à ses caprices, mais renoncer à ce qui est légitime pour elle, comme par exemple, je sais pas, moi, une certaine quantité de sexe, de nourriture, d'argent, un meilleur traitement ou de la reconnaissance de la part des autres, ça, c'est inacceptable. Mais pourtant, c'est précisément là que Dieu veut travailler. La chair est toujours prête à se défendre. Vous savez ça, pareil comme moi. Je vous dis que ça lui en prend pas gros, à la chair, pour qu'elle se sente abusée, vexée, froissée, puis blessée par les autres, hein. La chair est très facilement contrariée. La chair souffre souvent du complexe de persécution. Elle se plaint facilement des autres, soupçonne le mal. Elle adore les louanges et les compliments, mais déteste les corrections. Elle est rebelle et contredisante. Elle est sensible à la tentation et endurcie à l'Esprit Saint. La chair aime utiliser la Bible pour justifier ses croyances fausses ou déséquilibrées. La chair résiste en fait à tout ce qui s'oppose à la sainteté, à la volonté de Dieu puis à l'amour fraternel. La chair crée aussi à l'injustice à chaque fois qu'on met le doigt sur ses petits péchés favoris. Avez-vous déjà remarqué ça? Mais par la grâce de Dieu, rappelons-lui dans ces moments-là qu'elle n'a plus le droit de régner dans notre vie parce que Dieu l'a condamné. Romains 8:3 dit « Dieu a condamné le péché dans la chair », ce qui veut dire qu'il a condamné la chair avec. Un condamné à mort n'a plus de droit, sinon celui de mourir. Alors, chassons la rébellion autant qu'on peut le faire, que ce soit pour les raisons que ça voudra. La rébellion, la frustration, ça vient jamais de Dieu. Puis efforçons-nous de voir la sage main de Dieu derrière les choses qu'on vit. Tout n'est pas ordonné ou causé directement par Dieu, c'est évident, mais tout peut devenir une instruction de Dieu, puis concourir à notre plus grand avancement spirituel, par exemple. Madame Guillon, que j'ai citée tantôt, a dit encore, « Aussitôt qu'une chose nous arrive sous la forme d'une souffrance, résignez-vous immédiatement devant le Seigneur. Acceptez la chose. À ce moment, offrez-vous à lui en sacrifice. Ce faisant, vous ferez une merveilleuse découverte. Lorsque la croix se présente dans votre vie, elle ne sera pas aussi pesante que vous ne l'aviez craint. Peu importe ce que c'est, recevez-la comme provenant de la main même de Dieu. Le fardeau devient beaucoup plus léger de cette façon. Cela ne vous empêchera pas de ressentir le poids de la croix. Ressentir la douleur est l'une des parties principales de la souffrance de la croix. La douleur est un aspect inséparable de la croix. Sans elle, il n'y a pas de croix, évidemment. » Fin de citation. Cette femme-là a fait de la prison pour sa foi. Je crois que c'est au 16e siècle. Alors, elle ne parlait pas à travers son chapeau. Elle avait vraiment souffert. Elle savait ce que c'était que la souffrance. Alors, elle savait automatiquement ce que c'était que la bénédiction que la croix apportait. Bon, s'il arrive un pépin avec notre auto aujourd'hui, par exemple, ou qu'on se retrouve pris dans la circulation quand il fait très chaud, là, on sait tous que c'est un temps super favorable pour l'ennemi pour nous faire pécher par l'irritation. Hein? Chaque petite situation comme ça devient un test de caractère. C'est l'ennemi qui nous tente à descendre de notre croix. On se souvient que quand Jésus était sur la croix, il y avait des gens qui l'injuriaient, qui se moquaient de lui puis qui le provoquaient en lui disant « Vas-y, descends de la croix, c'était le Fils de Dieu. » Vous savez, nous autres aussi, à tous les jours, les gens ou les circonstances sont des efforts de l'ennemi pour essayer de nous faire descendre de notre croix puis de nous amener à pécher. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à suivre l'exemple de notre maître en adoptant une attitude des plus soumises devant les circonstances comme ça. Bon, juste hier matin seulement, moi-même, je suis descendu de ma croix pour une niaiserie. Je me suis chicané avec ma femme. Ça m'a irrité, je sais que vous autres, ça vous arrive jamais, là, mais moi, ça m'arrive des fois. Ce que je veux souligner, c'est que même cet échec-là n'a pas été une perte complète. Dieu possède le pouvoir de changer le mal en bien, puis ça, c'est bien heureux pour nous autres. Quand ça m'est arrivé, j'ai été mal dans ma peau toute l'avant-midi. Je me sentais comme un chien devant Dieu. devant les autres, puis devant moi-même surtout, mais savez-vous, ça m'a tellement humilié que ça a fortifié en moi une bonne résolution de demeurer sur la croix pour les prochaines fois à l'avenir, puis de plus m'irriter aussi facilement. En fait, mon échec aura servi à ma fortification. Alors, découragez-vous pas si ça vous arrive souvent de sauter en bas de votre croix, parce que ça même peut servir à votre plus grand bien. L'humiliation de nos échecs à porter notre croix concourt à notre sanctification, parce que on prend des résolutions, on se dit, bon, ben j'ai assez souffert de ça ce coup-là, la prochaine fois, je vais me retenir plus. Hein? Alors, ça, c'est pas tout à fait négatif, même les échecs ne sont pas négatifs. En Jérémie 10, 18, 19, on nous dit, « Car ainsi parle l'Éternel, voici, cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays, je vais les serrer de près, afin qu'on les atteigne. » Là, Jérémie prend la parole à la place du peuple, puis il leur montre avec quelle docilité d'attitude le peuple d'Israël devrait recevoir le châtiment de Dieu qui allait venir sur eux autres. Il dit, « Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais, je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. » Bon, c'est comme ça que Dieu aurait aimé voir le peuple réagir devant l'adversité, la correction. Bon, un des aspects de la mort par crucifixion était l'humiliation qui s'y rattachait. En Hébreux chapitre 12, la croix est avec raison appelée une ignominie. Une ignominie, c'est une grande honte publique, nous dit un certain dictionnaire. Pour nous autres aujourd'hui, quand on passe par des circonstances qui nous contrarient, c'est un peu la même chose, soyons pas étonnés de ça. L'humiliation de la chaise sanctifie le croyant. Robert Hamilton a dit, « Les déceptions sont les enseignants des sages. » Bon, la vie est pleine de circonstances modelantes. Mais si on savait toutes les reconnaître, hein, comme l'ânesse de Balaam a reconnu l'ange de l'Éternel qui lui barrait la route, puis qui s'est courbé devant lui, là. L'ânesse a eu une réaction de prophète, puis le pauvre prophète a eu une réaction d'âne devant l'ange. On pourrait vivre nos vies avec une bien plus grande sérénité si on pouvait reconnaître la croix puis l'accepter. En psaume 22, 7, le roi David a écrit, « Moi, je suis un ver et non un homme. » Roy Essien commente ce texte-là en disant, « Un ver n'offre aucune résistance. » On peut le repousser du pied, l'écraser, il ne riposte pas. On s'imagine parfois que mourir à soi-même rend malheureux. Au contraire, c'est le refus de mourir à soi-même qui rend misérable. Fin de citation. Dieu nous sanctifie en humiliant la chair de mille et une façons. On comprend pas toujours comment l'humiliation divine produit la sainteté, mais c'est un fait qui a été prouvé bien avant aujourd'hui. En psaume 119, 67, c'est encore David qui dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Les chemins de Dieu sont toujours les plus douloureux pour la chair, mais le chemin de la croix est toujours le choix le plus sage. Pourquoi? Parce que la souffrance est ce qui peut arriver de mieux aux croyants. Bizarre à dire, hein? Je n'avais pas entendu ça souvent, je pense, mais difficile à accepter, mais c'est que cette parole est dure à entendre, mais c'est vrai, la souffrance est ce qui peut arriver de mieux aux croyants. La mort n'existe pas. Il n'y a que des nouvelles naissances. Les choses qui frappent l'homme extérieur façonnent l'homme intérieur. C'est comme ça que Dieu voit les choses. C'est comme ça qu'il faudrait voir les choses aussi. En psaume 39, 10, le roi David dit encore, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » Quelle soumission! Bon, on ne sait pas quoi au juste, mais David vivait quelque chose là qu'on ne sait pas. Là. Quelque chose de pas drôle, mais David s'est pas plaint à Dieu d'être traité injustement. Il n'a pas crié à l'injustice. Hein? David a simplement et humblement reconnu la main de Dieu dans ce qui venait de lui arriver. Il s'est pas révolté. Ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est de voir qu'il s'est efforcé d'y voir la discipline du Seigneur, puis de s'y courber. C'est tout un exemple pour moi, puis pour tout le monde. Personne, jamais personne, a réussi à sauver toute sa vie. Pour employer l'expression de Jésus, autrement dit, à avoir toujours tout ce qu'il veut dans la vie, puis à se sauver toujours du trouble. Qu'on se dise chrétien ou non, la vie amène tout le monde, tôt ou tard, de gré ou de force, à opérer des renoncements douloureux dans sa vie. Lévitique 2, 14, 16 dit, « Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus, tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. c'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Bon. Les croyants du Nouveau Testament doivent encore offrir des sacrifices, saviez-vous ça? Comme les anciens sacrifiaient des animaux sur l'autel et des produits de la terre, comme ça, les croyants doivent aujourd'hui sacrifier leur homme animal sur l'autel de la croix. C'est Paul qui a dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Bon, Jésus a utilisé l'image de la croix pour parler de la mort à soi-même. Et Paul a utilisé celle de l'autel des sacrifices de l'Ancien Testament, mais ça revient à la même chose. L'expression « sacrifice vivant » est pas mal intéressante. À première vue, c'est une expression qui n'a aucun sens, là. Comment voulez-vous sacrifier quelque chose, puis que cette chose-là devienne encore plus vivante après qu'avant d'être sacrifiée? C'est pourtant exactement ce que Paul dit ici. Pourquoi? Parce que Paul emploie un langage spirituel. Chaque fois qu'on renonce à laisser la chair nous contrôler, puis nous faire dire, penser ou faire des choses de mal, quelque chose de mal, on est en train de mourir sur l'autel. Puis à chaque sacrifice de ce genre-là correspond une mesure de vie, de grâce, ou d'énergie spirituelle, si vous préférez, qui vient prendre sa place en nous autres. Charles Spurgeon a dit, « Nos troubles nous apportent toujours finalement des bénédictions. » C'est vrai, il n'y a rien qui amène à dire ça. Chaque fois que la chair nous presse de pécher, c'est le moment d'offrir ces mauvais désirs-là en sacrifice sur l'autel de la croix. La croix a deux aspects. Elle cherche à nous amener à renoncer à faire notre volonté, puis celle d'accomplir celle de Dieu. Dieu nous demande rarement de faire des choses faciles. La volonté de Dieu implique toujours un élément de sacrifice. Il y a toujours quelque chose de désagréable pour la chair dans la volonté de Dieu. Écrivez ça dans votre livre. Pour demeurer fidèle au Seigneur, il va nous falloir du renoncement. Puis un certain esprit de sacrifice. Faisons-nous pas d'illusions là-dessus. La volonté de Dieu, elle sera jamais totalement agréable, puis le fun, puis tout est beau, puis tout va bien, puis sur les roulettes, puis sur l'huile. Hein? C'est pas la réalité. On doit envisager notre croix comme une amie qui nous fait du bien. Dieu nous demande d'aimer notre croix, de la porter volontairement de bon cœur, par amour pour lui. Le Père Matthieu a écrit, « Prends avec joie ce que Jésus te donne, et donne avec joie ce que Jésus te prend. » Amen à ça. L'Esprit de Jésus va nous aider à aimer notre croix à un moment donné. Puis après un certain temps, l'idée même d'un renoncement au péché ou à quelque chose d'autre va même devenir stimulant et édifiant. Dieu comprend parfaitement qu'on ait de la réticence devant notre croix. Dieu nous aime, puis il va nous attendre. Il marche à notre vitesse, puis il brimera jamais notre volonté, vraiment. Il n'y a personne qui peut se vanter de porter sa croix en tout temps, puis d'une façon parfaite. D'un autre côté, allons pas faire l'erreur de croire qu'on peut négliger la croix puis continuer à prospérer spirituellement, parce que ça aussi, c'est une illusion. Celui qui méprise le ministère de la croix dans sa vie va voir tôt ou tard sa désagrégation spirituelle. On doit, par amour pour le Seigneur, fournir d'en être effort pour laisser la croix faire son œuvre dans nos vies et nous soumettre à la douce discipline de l'esprit. Madame Guillon a encore écrit, « Tout le monde n'est pas capable d'effectuer de sévères renoncements extérieurs, mais tous sont capables de rentrer en eux-mêmes et de s'abandonner totalement à Dieu. » Alors, il y a un encouragement ici. C'est le rôle de l'Esprit Saint de nous aider à porter notre croix. Soyons tranquilles, on n'est jamais seul pour ça. Tout comme le Christ lui-même, tous les vrais croyants ont dans leur chair une aversion pour la croix, mais ceux-ci ont en même temps une mystérieuse attraction pour elle dans leur cœur. Faire des sacrifices est un fardeau horrible pour le commun des mortels. Mais quand l'Esprit de la croix, l'Esprit de Christ, pousse un croyant à faire un renoncement ou un acte d'obéissance, il le lui fait aimer en même temps. Un sacrifice peut devenir une grande joie spirituelle, saviez-vous ça? Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, bien sûr. Porter sa croix jour après jour peut être quelque chose de tellement agréable, vous savez. C'est désagréable pour la chair, mais c'est tellement bénissant pour l'esprit. Ça semble avoir aucun sens à dire, mais Jésus a dit que le suivre était un fardeau qui était léger. Encore une fois, c'est un langage spirituel qui n'a pas tellement de sens d'un point de vue humain, mais qui exprime une grande vérité. Un fardeau, Jésus voulait dire que son fardeau deviendrait léger, si vous préférez. Quand on accepte de la porter volontairement, évidemment, la croix devient vraiment beaucoup moins lourde. Je me souviens avoir aidé un ami à livrer un mobilier de cuisine quelque part. C'était un jour d'automne, froid, puis il pleuvait un peu avec ça. J'avais pas de gants, puis le froid me perçait les doigts. Bon, je dois avouer que le service que je lui rendais là était pas mal pénible. J'aurais bien mieux resté chez nous. J'aurais aimé ça rester chez nous cette journée-là. Mais quand il m'a appelé, j'y étais quand même. Pendant qu'on était là, par exemple, dehors, à se faire geler, l'Esprit m'a rappelé de mettre en pratique ce principe de sacrifice-là. Alors j'ai prié intérieurement, puis j'ai offert la douleur de mon service à Dieu comme un sacrifice vivant. Quand j'ai fait ça, je rends le témoignage ici que la grâce de Dieu s'est levée en moi, c'est comme levée en moi. Puis que le service en question était plus du tout difficile, puis j'ai pu tout faire avec joie, malgré les inconvénients de la mauvaise température. Je sentais encore la douleur du froid, bien sûr, mais j'avais une joie intérieure plus grande qui l'engloutissait. Alors ça aussi, c'est une expérience merveilleuse. J'en fais pas tous les jours des comme ça, là, des pas croire, mais ça m'a vraiment béni d'avoir vécu ça. Je vais m'en rappeler longtemps. Thomas Kempis a écrit « Porte ta croix patiemment et avec une parfaite soumission, et à la fin, c'est elle qui te portera. Si tu portes ta croix à contre-cœur, elle devient un fardeau. » Fin de citation. Très, très sage. Très, très sage, ça. Une autre fois, ma mère m'appelle pour me demander d'aller avec elle acheter des chaises de parterre, qui est en spécial dans un magasin quelque part, là. Bon, en temps normal, ça m'a vraiment fait plaisir, moi, de rendre service à ma mère. Mais ce jour-là, c'était pas un jour ordinaire. Vous savez, ça arrive tout le temps dans ces jours-là. En plus d'avoir la grippe, j'avais très mal dormi la nuit précédente, puis ce service-là me pesait très lourd sur les épaules. Bon, j'y suis allé quand même, mais je me souviens avoir murmuré à moi-même tout le long du trajet pour aller dans mon auto. Hein. Quand je suis finalement arrivé près des caisses avec mes chaises dans les bras, mon cœur m'a fait des reproches, évidemment. Je me sentais triste de pas avoir pu rendre ce service-là avec une meilleure attitude, tant qu'à le faire, hein. Bien le faire. Je l'avais fait, mais je l'avais fait tout à reculons. Alors, je me suis dit, c'est bon rien, ça. Bon, intérieurement, j'ai confessé mon péché à Dieu en disant, « Seigneur, j'aurais vraiment voulu faire ce que j'ai fait là d'une façon qui te soit agréable. » Puis je regrette d'avoir perdu cette opportunité-là. Mais à partir de ce moment précis, là, je prends la décision de continuer, de terminer ce service-là pour l'amour de toi, dans une entière soumission comme une offrande volontaire. Bon, quand j'ai accepté la croix qui se rattachait à la difficulté, j'ai senti le fardeau s'envoler. J'avais plus envie de murmurer du tout, puis je trouvais même plus le service pénible. J'ai même éprouvé une réelle joie intérieure d'être là, puis d'avoir fait ça. Bon, une autre fois, j'étais concierge dans une petite école, puis on m'avait demandé de peinturer les murs de l'entrée au-dessus des escaliers. À partir du bas jusqu'en haut des murs, il y avait à peu près 15 pieds et demi. C'était ça, le hic. Puis par endroit, à partir d'en bas des marches, il pouvait y avoir à peu près 20 pieds. Bon, je peux vous dire qu'installer un grand escabeau sur des tables plus ou moins branlantes, puis de monter jusqu'en haut pour faire le découpage, ça me tentait pas tellement. Hein. Puis installer un escabeau de 10 pieds et demi dans des escaliers, c'est pas évident non plus. À chaque jour que j'entrais là, puis que je regardais les murs, que j'avais à faire, là, que j'aurais à faire, bon, il y avait une voix en moi qui me disait, « Maudit job, Seigneur, ça me tente pas de m'embarquer là-dedans. » Bon, heureusement qu'on m'avait donné du temps pour le faire, une couple de jours, une couple de semaines, ils m'ont dit, « Bon, tu feras ça quand ça te donnera, quand ça te dira. » Mais ça me pesait à dos. Un jour, j'étais là, j'étais appuyé sur le mur en bas des escaliers, puis je regardais jusqu'en haut des murs, puis là, je sentais l'irritation monter à moi, puis je me disais, pourquoi peinturer ces murs-là? Ils sont beaux. Ils sont beaux comme ça. J'avais pas besoin de peinturer. Ça, c'est rien que des caprices. Des caprices de boss. Hein? Puis là, il y a deux versets de la Bible qui me sont revenus me frapper comme une flèche au cœur. Faites toutes choses sans murmure. Puis le suivant, faites toutes choses de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Hein? Je me suis aussi rappelé la sage prière des alcooliques anonymes qui dit, « Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. » Là, il y a comme un brisement qui s'est fait en moi. Quand ces versets-là, cette parole-là, ils me sont venus. J'ai senti l'Esprit de Dieu me parler puis corriger l'attitude de mon cœur pour que j'accepte le défi qui était devant moi, que j'accepte la croix. À partir de ce moment-là, je peux vous dire que j'ai fait tout ce travail-là sans aucune difficulté, sans aucune pesanteur dans l'esprit. Dieu venait de me montrer à faire les choses pour lui. Je peux vous dire que ça fait toute une différence, ça. Ça aussi, je bénis Dieu de cette expérience-là. En psaume 51:19, ça dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Bon, comme le vase de parfum que Marie a rompu, puis qui a rempli la maison de son odeur, la croix, l'adversité nous brise aussi, afin que nos âmes puissent exhaler la bonne odeur de Christ, pour employer l'expression de Paul. Toutes les saintes offrandes du passé, dont la fumée là, montait vers Dieu, Comme ça, la croix nous brise pour que notre vie libère toujours davantage cette sainte et agréable odeur de Christ aussi. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, dit Ésaïe 67. On se souvient quand Jésus a multiplié le pain. Bon, il y a une grande leçon à tirer de ça. Celui qui a été brisé par Dieu aussi va décupler ses capacités spirituelles, va décupler sa spiritualité même. L'homme ne peut pas être sanctifié dans son caractère uniquement par une bonne instruction théologique. Il va falloir souvent qu'il fasse l'expérience de la mort de Jésus-Christ dans sa vie. L'orgueil, par exemple, pourra être anéanti seulement par des circonstances humiliantes. Il n'y a pas d'autre chemin. En demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, dit Paul. La sanctification est une sorte de mort aussi, par laquelle on peut être rapproché de Dieu toujours un peu plus à chaque fois. Plus on va permettre à la croix de briser notre volonté charnelle et rebelle, ben plus notre communion avec Dieu va devenir intime. Bon, en conclusion, en période d'adversité, ben soyons dociles, soyons patients dans l'affliction, nous dit Paul. Acceptons la douleur de l'irritation en silence, acceptons cette douleur-là comme étant l'œuvre de la croix. Prions plutôt pour confesser notre frustration et pour nous repentir devant Dieu, de lui avoir donné accès en premier lieu. Ayons une attitude sacrificielle. Puis à l'exemple du Christ, ben laissons entrer les clous, sans regimber, autant que possible. Quand l'irritation est dans notre cœur, résistons pas à l'esprit de la douceur qui veut prendre sa place. Acceptons la contradiction, et que notre douceur soit connue de tous les hommes, nous dit Paul. Chaque difficulté a été sur le moment, pour moi, un sujet de tristesse ou de frustration dans ma vie, je le confesse. Mais de toutes les difficultés passées, je peux dire aujourd'hui que j'en regrette aucune. Je les bénis toutes, au contraire, pour le rôle enseignant et sanctifiant qu'elles ont joué dans mon existence. Prions. Seigneur, tu nous as placés sur la terre et nous participons aux peines qui se rattachent à notre humanité. On est tous sous la malédiction à cause du péché qui est entré dans le monde. Et puis notre chair doit accepter le châtiment de sa rébellion. Même si on sait que tu nous aimes, notre chair doit quand même continuer à être mise à mort par cette malédiction. Esprit de Dieu, enseigne-nous le renoncement. Seigneur, fais de nous des porteurs de croix. Et aide-nous, Seigneur, afin qu'on s'efforce à devenir des sacrifices vivants. Amen.